direct de la Maison de la Radio avec Benjamin Hu à la réalisation et Nasser Moussaoui à la technique. Bonjour. Une petite grande table jusqu'à midi et demi. Comme chaque année aujourd'hui, à midi, nous aurions dû être à Cannes et donner le coup d'envoi de trois grandes tables spéciales festival. Ça fait partie de ces rituels importants dans la vie d'une chaîne comme France Culture, dans notre vie à nous aussi, car le festival permet de mesurer la créativité d'un secteur et de donner la parole à tous ses acteurs. Ce que nous allons faire, du coup, autrement, on va s'adapter comme tout le monde toute cette semaine avec Michel Hazanavicius, Marjane Satrapi, Frédéric Wiseman notamment. Aujourd'hui, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes et directeur de l'Institut Lumière à Lyon. Cinéma, 5 scénarios pour un monde nouveau. Première à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Une semaine cinéma en partenariat avec France Télévisions qui va diffuser sur sa plateforme dans les trois prochains mois 21 films, pas moins, issus des sélections des 30 dernières quinzaines des réalisateurs en accès libre. Vous pourrez donc voir ou revoir La Promesse de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, J'ai horreur de l'amour de Laurence Ferreira Barbosa, La moustache d'Emmanuel Carrère ou encore Ma vie de courgette de Claude Barras. Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour ouvrir cette semaine cinéma. Si, Thierry Frémaux, votre journée, à vous, elle aurait dû commencer comment aujourd'hui?
Elle commence en général, je me lève pas super tôt, mais relativement tôt, et j'accueille les premières équipes qui arrivent en conférence de presse pendant que les journalistes sont déjà dans les salles en train de voir les films. Les premières séances commencent à 8h30 et nous, on accueille les premières équipes aux alentours de 10h.
Elle aurait dû commencer peut-être aussi avec un rayon de soleil. Je sais pas quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Est-ce que là, pendant ces 10 jours, chaque matin, vous vous dites si, si, si? Ou est-ce que vous êtes plutôt à dire, bon, voilà, on a acté le fait que cette année, le festival n'aura pas lieu, en tout cas pas sous sa forme habituelle. Maintenant, on pense aux jours à venir, aux semaines à venir, aux mois à venir et peut-être déjà à la prochaine édition. Quel est votre état d'esprit pour l'instant?
C'est un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire que nous, on s'est fait assez rapidement à l'idée. Moi, je suis un être actif et lucide à la fois. J'ai bien vu que c'était plus grave que d'habitude. Chaque année, il y a des petites choses qui nous font nous dire Cannes est menacé ou il peut se passer ceci ou cela. Là, on a bien vu que c'était sérieux. Et donc, l'idée de pas se retrouver tous ensemble en mai, j'ai eu ça assez vite à l'esprit. En revanche, vous-même, vous l'avez dit, et puis plein de gens ont aussi un nœud au ventre de ne pas être à Cannes, parce qu'il faut que les auditeurs aussi sachent que Cannes, c'est pas seulement le tapis rouge, le glamour, etc. C'est des gens qui travaillent, c'est les premiers jours de l'été, c'est l'ouverture de l'été presque. Et puis, c'est en effet de se retrouver avec des amis qui viennent du monde entier. C'est une espèce de village mondial. Et on n'y a pas droit cette année, ça nous attriste tous.
Être responsable d'un festival aussi important pour le secteur et aussi imposant que le Festival de Cannes, Thierry Frémaux, c'est aussi apprendre à faire, à vivre avec des si. Vous avez-vous appris depuis toutes ces années à anticiper les risques?
Oui, vous vous souvenez, il y avait eu le volcan par exemple, c'était arrivé en avril, il y a quelques années, et on nous prédisait un arrêt total du transport aérien. Donc là, on a vécu pendant quelques semaines en flippant bien de savoir si le festival aurait lieu ou pas. Mais on apprend à vivre avec tout ça. Puis, de toute façon, il se passe toujours tellement de choses, y compris, ce qui est le plus important, la vie des films. Un film, quelqu'un l'a pensé, l'a imaginé, des gens l'ont produit, toute une équipe s'en sont occupés. Et il est montré à Cannes, et puis là, il est soumis au verdict... à l'appréciation de la presse, des festivaliers, des professionnels. Tout ça fait partie de ce qui est excitant aussi dans ce métier-là.
Alors là, il n'y aura pas de films cette année qui seront montrés à Cannes, en tout cas pas sous cette forme-là. Report, annulation pure et simple, association, quel scénario pour le Festival de Cannes 2020, Thierry Frémaux?
Nous, on n'a pas voulu prononcer le mot annulation. Déjà parce que il nous semblait un peu léger de dire au 15 avril, puisqu'en fait, on avait jusqu'au 15 avril pour prendre une décision. En fait, on l'a prise le 19 mars en tentant de repousser le festival en juillet. Ça n'a pas marché quand le président de la République a parlé le 12 avril que l'été n'allait pas se passer comme prévu. Et on ne voulait pas déserter le terrain au 12 avril, on ne voulait pas abandonner les films, les auteurs, les gens qui continuaient en plus. Et au moment où je vous parle, ça continue, j'ai encore vu un film ce matin, les films continuent à nous arriver, les artistes et les producteurs veulent qu'on voit leurs films. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire autrement, et en particulier, Cannes vit des films, et ben on va s'occuper des films. Donc on va produire une sélection officielle, qui ne sera pas montrée de manière classique, c'est-à-dire pendant 12 jours dans cette ville du sud de la France, formidable, mais d'une autre manière, quand les films sortiront, quand ils iront dans d'autres festivals, quand et puis vous savez que Cannes c'est un marché aussi, donc le marché, autant moi je suis complètement opposé à l'idée d'un festival numérique, parce que c'est deux termes antinomiques, un festival il y a la notion de fête, le numérique c'est chez soi, on peut pas faire un festival numérique, en tout cas pas Cannes. En revanche, le marché du film, c'est-à-dire les professionnels qui se parlent, qui échangent des scénarios, des projets, des bandes-annonces, etc., ça, ça peut se faire. Et ça se fera à la fin juin. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a toute cette dimension-là de gens, alors là, on est vraiment sur la planète entière, de gens qu'il fallait pas non plus laisser tomber, à qui il fallait donner une sorte de rendez-vous. Et donc, entre ça, vous... vous faites la gentillesse de parler de nous cette semaine, les journaux du monde entier, le New York Times a fait un papier formidable où j'ai appris beaucoup de choses. Le papier s'appelait « Ce que nous perdons en perdant le Festival de Cannes ». Et c'est les journalistes qui habituellement sont plutôt sévères avec nous. Et là, tout à coup, ils étaient d'une affection, d'une générosité et ça nous enseigne des choses pour aussi préparer l'avenir.
Qui aime bien châtie bien, c'est assez logique. Mais c'est vrai aussi, Thierry Frémaux, et on le sait, que Cannes est devenu, pour le secteur, pour les professionnels du cinéma, un incontournable. Ce qui veut dire aussi une grande responsabilité pour vous par rapport à ces films, par rapport à leur public. On entend notamment aujourd'hui des réalisateurs, des producteurs dire qu'ils vont se réserver, voire se préserver pour l'édition 2021, repousser d'un an au moins la sortie de films qui auraient pu être prêts ou dû être prêts pour mai, alors qui auraient été ou pas dans la sélection ou qui le seront ou pas. C'est le cas notamment du nouveau Verhoeven, Benedetta, ça a été l'annonce de son producteur, Saïd Ben Saïd, de se préserver jusqu'à 2021. Beaucoup vont réagir comme lui.
Ouais, en fait, la sélection officielle que je vais annoncer début juin sera en effet amputée d'un certain nombre de titres qui pourraient être attendus pour 2020, mais dont, en effet, les producteurs ont dit, face à l'incertitude des temps, et puis dans l'envie de quand même montrer ce film à Cannes, de le montrer devant ces milliers de personnes, on préfère reprendre le risque du processus de sélection et resoumettre nos films à partir de la sélection, on va recommencer à partir du mois de novembre. Et donc, on oubliera cette année blanche et on repartira. Alors nous, ça nous touche beaucoup parce que c'est une confiance formidable, ça nous donne un peu des devoirs, parce qu'il faudra aussi s'occuper de tous ces gens-là. Ça nous oblige aussi à penser d'une autre façon les films qu'on a vus et dont on va annoncer la liste, quand on...
Ah, on a perdu la liaison avec Thierry Frémaux. On va pas se laisser abattre. On va le retrouver très très rapidement. Et pour ce faire, on va vous proposer un peu de musique. Et une musique qu'il aime en plus, Thierry Frémaux, parce qu'on est comme ça à la grande table. C'est-à-dire un Bruce Springsteen. Je vous propose de vous expliquer tout ça juste après l'avoir écouté.
Now hey, little girlie, with a red dress on, there's a party tonight down in Memphis town. I'll be going down there if you need a ride. Come on, come on, let's go tonight. How many have fallen with a dream denied? Now tell me, baby, are you lonesome tonight? 'Cause the man on the radio says Elvis Presley died. Come on, come on, let's go tonight.
Dixie tonight. The sky is hard and black, coming up over the ridge, one long white Cadillac. People standing on the roadside, waiting in the heat, bound together forever in the promise of an endless sleep. Well, they found him slumped up against the train, with a whole lot of nothing running through his veins. Well, bye-bye, Johnny. Oh, Johnny, bye-bye. You didn't have to die. You didn't have to die.
Johnny Bye Bye de Bruce Springsteen, l'artiste qui vient de livrer un nouvel opus inédit de ce concert, d'un concert de 1980 où il avait chanté ses grands tubes, mais aussi des reprises et notamment du Jimmy Cliff et du Elvis Presley. Enregistré en 81, c'est un inédit, lors de cette tournée The River, où il avait donné plus de 140 concerts. Le disque est maintenant disponible et les bénéfices seront reversés à une association qui lutte contre la pandémie ou pour aider ceux qui en sont malades. On nous avait dit que pour vous faire revenir, Thierry Frémaux, parce que vous voyez, nous aussi, on sait anticiper les risques, il fallait vous passer du Bruce Springsteen. Ça a marché ?
Ah oui, ça a marché.
Ah vous voilà, on est ravis de vous avoir retrouvé.
C'est d'ailleurs une belle version, ça. Il l'avait enregistré en studio dans les années, dans la fin des années 70, et c'est en effet une chanson d'hommage au moment de la mort d'Elvis Presley.
Voilà, la version live qu'on vient d'entendre, qui avait été enregistrée précédemment en studio. Avec nous Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes et directeur de l'Institut Lumière jusqu'à midi et demi. Bienvenue sur France Culture, vous êtes en direct, il est midi 12.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Vous nous parliez du processus de sélection en cours avant d'être coupé, Thierry Frémaux, et notamment de ces films que vous avez vus, auxquels vous avez pensé, de ceux qui se réserveront, préserveront peut-être pour l'année prochaine, de ceux que vous montrerez là, sous un label Cannes 2020. Cette sélection, elle sera donc forcément incomplète, d'autant qu'elle ne sera pas présentée sous la forme d'une compétition. C'est ça aussi la grande différence.
Oui, parce qu'en plus, on trouve... quand j'annoncerai la liste des films, il y en aura une cinquantaine, soixantaine, comme chaque année, mais je ne vais pas faire compétition, certains regards, films d'ouverture, films de clôture, et puis faire une compétition, je ne sais pas, il y aurait eu quelque chose d'un peu inconvenant. Malgré tout, l'année n'est pas une année comme les autres, et je n'ai pas envie, avec tous ces films qu'on va annoncer, et qui, eux, vont s'affronter à la sortie, qui vont prendre le risque de sortir, j'ai pas envie de dire... celui-là est mieux que celui-là, ou ce... Non, on va dire, voilà le cinéma que nous avons aimé, que nous avons vu, et qu'on va avoir envie de défendre avec les exploitants, quand ils rouvriront les salles, avec les festivals, pour ceux qui auront lieu à l'automne, parce qu'on a été invité dans plein d'endroits, dans le monde entier, de gens qui disent, nous, on va un peu vous... On va vous accueillir, puisque vous n'avez pas pu exister, c'est nous qui vous accueillons pour une fois.
Mmh. Vous pouvez nous donner un avant-goût de cette sélection ?
Vous parliez de Benedetta, qui est un film qu'on a vu et qui était déjà retenu en compétition et qui a décidé de postuler pour l'année 21. Le film de Wes Anderson, que nous avons vu aussi et sélectionné très tôt en compétition, lui en revanche a décidé a priori de sortir à l'automne, de sortir pour l'instant une date, la date du 14 octobre a déjà été arrêtée et donc il fera partie de la sélection. C'est une sorte de films très très uniques, très très minimalistes et très miniaturistes de Wes Anderson qui compose vraiment une œuvre très extraordinaire, à la fois une œuvre très référentielle, et là c'est un film presque en hommage à la presse française des années 30, et une œuvre à la fois très 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 personnelle, très esthétique, enfin voilà. Et puis il y avait le film de Nanni Moretti. Alors, vous voyez, Nanni Moretti dont on a vu le film également très tôt au début de l'année. Lui, il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore s'il sort, donc s'il figurera dans la liste, ou s'il préfère carrément attendre 2021. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu, comme d'habitude, un cinéma mondial très actif, très cinéma, hein, puisque maintenant, faut un peu faire la différence entre les images qui viennent des séries et les images qui viennent de la fiction cinéma. C'est définitivement plus du tout la même chose. Et on est dans la création, on est dans l'invention de forme. Et on a vu aussi plein de très très beaux films français, pas des films de, si j'ose dire, et c'est pas une question de qualité, mais de grand format, mais des films très beaux avec des acteurs français, acteurs actrices en pleine forme. Ah oui, et puis on a vu aussi beaucoup, ça c'est la tendance, hein, on le savait, de plus en plus de films de réalisatrices. Ça c'est assez formidable.
Une sélection qui aurait été plus féminine du côté de la jeune garde du cinéma français. Vous avez repéré qui pour cette future sélection annoncée début juin?
Oui, je vais pas vous dire parce que ça sera, on garde quand même le secret. Mais oui, il y a beaucoup dans le cinéma français, mais beaucoup dans le cinéma américain, dans le cinéma africain par exemple, Afrique de l'Ouest comme Afrique de l'Est, quasiment un film sur deux qui nous arrive, Afrique du Nord aussi, est un film réalisé par une réalisatrice. Mais ça, c'est on a beaucoup été critiqué, Cannes, parce qu'on a incarné à un certain moment. En fait, on était juste le reflet de ce qu'était le cinéma mondial, qui était plutôt masculin. Et on avait dit, mais vous allez voir, ça va arriver de plus en plus. Et c'est le cas. Alors, la France est très, très active en la matière, pas seulement d'ailleurs sur les métiers de réalisation, mais aussi sur d'autres métiers. Les chefs opératrices, c'est la chef opératrice de Céline Sciamma qui a remporté le César cette année de la meilleure photo, par exemple. Donc voilà, ce sont des phénomènes qui s'amplifient et cette année, on en aurait été, on en sera quand même l'écho.
Alors, l'occasion de redire d'ailleurs aux auditeurs que c'est Mati Diop, que vous connaissez bien, Thierry Frémaux, qui est cette année la lauréate du prix France Culture Cinéma des étudiants pour son film Atlantique, qui avait été présenté l'an passé à Cannes, ce prix qui aurait dû lui être remis, là encore, à Cannes cette année. Elle vient de le recevoir, elle aussi, double nationalité, pour ce très beau film sur la question de l'exil et des réfugiés. Continuez un peu à faire le tour de cette sélection, ou en tout cas de ce qu'elle dégage avec vous, Thierry Frémaux, souvent d'une année à l'autre, on se rend compte que Cannes a quelque chose à dire, hein, qu'il y a des préoccupations communes aux réalisateurs du monde entier, un questionnement du monde. Qu'est-ce qui se dégage des films que vous avez pu voir tourner évidemment avant l'épidémie?
Oui, alors, encore une fois, quand on dit, parce que parfois les gens disent Cannes est très politique, c'est pas nous qui sommes politiques, ce sont les artistes. C'est-à-dire que une sélection, évidemment, passe par des critères de goût, de choix, d'équilibre, de géopolitique, de plein de choses. Mais en effet, comme vous dites, il y a des choses qui se dégagent. Et il y a des sujets qui sont abordés aujourd'hui qui n'auraient pas été il y a une dizaine d'années. Et là, on voit, par exemple, sur les films français, on a vu des films de quartier. Vous voyez, on a vu des films où tout à coup, il y a comme le retour à une vie qui va d'un domicile, on descend et on va dans le bar d'à côté. Alors évidemment, c'était des films qui nous mettaient de la nostalgie en plein confinement, parce qu'on ne pouvait plus aller au bar du quartier, on ne peut toujours pas d'ailleurs. Mais évidemment, c'est la métaphore d'un retour à une sorte de vie moins hystérique, plus économe, plus sobre et tout aussi intense sur le plan des idées. On a vu même un film... pour ne rien vous cacher, de Jonathan Nociter, ça vous étonnera pas, il était venu à Cannes il y a quelques années avec un documentaire qui s'appelait Mondovino, qui était sur la... que même dans le vin comme dans le cinéma, il y a des gros, il y a des petits. Il y a un goût commun et puis il y a des gens qui cherchent des petites choses, comme on a les films Marvel, tant vie dépendée par Martin Scorsese, et puis des auteurs qui essayent de réinventer la manière de raconter le monde avec des images.
Mais typiquement le film de Jonathan Nociter, vous avez déjà pu en voir des images, ce Last Words, puisqu'il a déjà un titre et qui se terminait sur fond d'épidémie naissante en Italie. Le film était déjà prêt, il aurait pu être prêt pour Cannes.
Je vais vous dire qu'au moment où nous nous parlons, et j'ai parlé à Jonathan tout à l'heure, il est en train d'accélérer le montage pour essayer de nous le présenter, pour éventuellement figurer dans cette sélection 2020. Oui. Et bon, c'est un homme, vous vous souvenez de Alice Scherer Walker, qui a fait Les Merveilles, qui passe bientôt sur Arte, je crois, qui est également une cinéaste qui fait du cinéma à la main, qui qui fait du cinéma écologique par son sujet, mais aussi par la manière de le faire. Elle tourne toujours en 35 mm, elle ne veut pas du numérique. Elle a une façon également, elle, de faire de la parité sur ses plateaux, sur son tournage. Il y a beaucoup de convictions chez de nombreux cinéastes. Ce qui est assez formidable, c'est qu'on s'aperçoit que parfois, un cinéaste à Singapour et un cinéaste à Buenos Aires vont avoir les mêmes convictions sans jamais se les être échangés, les avoir confrontés. Et c'est aussi pour ça, je crois, que les gens adorent venir à Cannes pendant 2 jours. On fait une sorte de voyage en accéléré qui nous donne une pulsation du monde qui nous est utile pour un an, quoi.
Et son dernier film était déjà une fable écologique, hein, une fable aussi sur la ruralité et le thème des villes, heureux comme Lazzaro. Hein. Ce très joli film qu'elle avait réalisé. On voit cette thématique de la proximité, celle de notre environnement, vous dites, qui revient à travers ces films que vous avez pu voir. Ce film d'Alice Rohrwacher était très poétique, un autre poète du cinéma. Je vous propose de l'écouter, vous allez le reconnaître tout de suite.
It's so beautiful, cinema. It comes in a spark and you see it and you feel it and you hear it. It's so delicate, but if you get into that world, it can be like a dream.
Thierry Frémaux, vous avez reconnu, peut-être, David Lynch. C'est tellement beau le cinéma, dit-il. Il vient dans une étincelle, vous le voyez, vous le sentez, vous l'entendez, c'est tellement délicat. Mais si vous entrez dans ce monde, cela pourrait être comme dans un rêve. On a parfois besoin de la poésie aussi d'un David Lynch, le plus étrange et le plus fascinant des cinéastes, pour retrouver un peu sens et les pieds sur terre. David Lynch qui, durant tout le confinement, a posté chaque matin des bulletins météo, des mini-vidéos de lui sur YouTube, comme pour marquer les saisons et la répétition du temps, sans commentaire. Voilà, David Lynch qui dit peut-être ce qu'il y a de plus simple et de plus sensé à dire non sur le cinéma. Cette magie, ce rêve qui peut s'en déclencher, s'en découler aussi.
Oui, et avec lui qui est très attaché à la salle de cinéma, alors que son dernier film, il l'a fait sous forme de série. Enfin, quand je lui ai dit, vachement bien ta série, il me dit, c'est pas une série, c'est un film. C'est un film de 12 heures, mais c'est un film. Bon. Et d'ailleurs, on l'avait montré à Cannes, dans la grande salle, et en effet, la qualité de son travail prenait toute sa puissance sur un grand écran. Là, ce que le confinement a beaucoup dit, c'est cette espèce de nouveau monde aussi, qui bien sûr fait la place à Internet, aux films qui nous arrivent directement sur le smartphone, mais dit la place aussi de l'importance de la salle de cinéma. Et donc dit la place de l'importance de la cohabitation. Il ne s'agit plus d'opposer les films et les séries, Netflix et les salles de cinéma. Il s'agit de dire ce que sont les choses et qu'elles ne sont pas les mêmes. Et que la télévision et le cinéma ont appris à vivre ensemble depuis les années 50, comme le cinéma, qui, Dieu sait, a été, dès son origine, critiqué ici et là, et dont on a annoncé la disparition. Il ne disparaît pas parce qu'il a ceci de singulier, dont vient de parler David Lynch, qui est irremplaçable. Et ça n'est pas, même dans le confinement, les formidables films en famille qu'on a découverts, ça n'est pas ça, la solitude d'une salle de cinéma ou le groupe de spectateurs dans une salle de cinéma. Et je trouve, mais on en fera un peu le bilan, que bizarrement et contre les commentaires qui ont pu être faits un peu à la va-vite, je trouve que le confinement a dit en creux l'importance de la salle de cinéma.
Un mot juste, Thierry Frémaux, du nouveau Spike Lee. Il aurait dû présider le jury de ce festival de Cannes 2020. Son nouveau film devait être présenté aussi probablement à Cannes, si j'ai bien lu, bien compris. Da Five Bloods. Le film sortira le 12 juin sur Netflix. Il était l'homme qui devait aussi définitivement peut-être réconcilier Cannes avec les plateformes, des plateformes qui ont été très vues, très parcourues durant ce confinement et pour cause. Beaucoup disent que la survie maintenant d'un certain cinéma, y compris le cinéma français, qu'on le veuille ou non, va se jouer là, parce qu'elles sont prêtes aussi à mettre de l'argent sur des films habituellement non subventionnés, réglant aussi pour un temps la question des salles, parce que c'est la grande incertitude, savoir quand les salles pourront rouvrir. Est-ce qu'il va falloir quand même repenser maintenant l'écosystème? Est-ce que cette crise n'a pas aussi montré les failles et les fragilités du milieu?
Oui, mais à ce moment-là, il faut parler de tout. Alors, je ne sais pas si on a pris le temps, mais par exemple... Il n'y a pas de film français subventionné. Hein. L'argent qui est distribué, c'est l'argent du cinéma. Comme vous savez, le système français, génial, réinventé par Jack Lang au début des années 80 et par Canal Plus à l'époque, permet de récupérer l'argent d'une partie des recettes et de le redistribuer. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous mentionnez les plateformes. Évidemment, quand on dit plateformes, on pense aux grandes plateformes américaines qui ne payent pas toutes. Non pas l'impôt, bon il y a des histoires d'impôt, mais je ne rentrerai pas là-dedans, mais le tribut, disons, à la préservation de l'écosystème dont elles se nourrissent. Parce que si on veut que les plateformes, dans 20 ans, puissent bénéficier de la mythologie du cinéma, puisque c'est leur cas, elles bénéficient de la mythologie du cinéma, soit des œuvres qu'elles montrent, soit des auteurs qu'elles vont, en effet, comme vous dites, chercher, financer, etc. Si on veut que ça continue en 20 ans, il faudra qu'on ait maintenu la mythologie du cinéma. Et pour qu'elle se maintienne, il faut que les films sortent en salle. Donc nous, on n'a aucun problème. Je suis même très copain, moi, avec les gens de Netflix. La seule chose qu'on leur dit, c'est si vous voulez venir en compétition, alors il faut accepter que les films sortent en salle. Et là, ils nous opposent l'idée que le système français les oblige tellement à attendre que ça ne les intéresse pas. D'accord. Alors reparlons peut-être de ce qu'on appelle la chronologie des médias.
Voilà, qui est de facto rediscuté aujourd'hui par la situation. Une cinquantaine de films, au moins, hein, ont reçu l'accord dérogatoire du CNC pour une sortie anticipée en VOD, en vidéo, dont Radioactive de Marjane Satrapi. Elle sera notre invitée demain, on en reparlera avec elle. Mais si là, l'urgence a justifié de bousculer cette chronologie des médias, on voit quand même qu'une brèche est ouverte. Est-ce qu'elle mériterait, cette brèche, d'être repensée, creusée, peut-être solidifiée, cette brèche sur la chronologie des médias par la suite?
Oui, je parlais des débuts des années 80 de Jack Lang. La France a pris 20 ans d'avance. À ce moment-là, il faut reprendre, disons, au moins 10 ans d'avance. Et la question de attendre pour que les films sortent en salle, évidemment, les salles, il faut les comprendre, sont un peu nerveuses à l'idée de raccourcir le délai entre première dans une salle, puis film montré sur une plateforme ou à la télévision. Mais il faut se disputer, s'engueuler, reparler de tout ça. Le monde n'est plus le même qu'il y a quelques années. Le monde de l'audiovisuel n'est plus le même. Donc, en effet, il faut reparler de tout ça. Vous savez, Netflix est aussi quelque chose d'assez précieux en ce sens qu'ils ont décidé de miser, à l'opposé de Disney, par exemple, sur les productions locales. La Casa del Papel a fait plus pour la langue espagnole que les films d'Almodovar et que les ouvrages de Cervantes réunis, parce que ça a été vu par des centaines de millions de gens à travers le monde. Et donc, y a un monde nouveau qui est là. Nous croyons au cinéma, nous croyons qu'il faut défendre le cinéma, défendre les salles de cinéma. Alors évidemment, le film de Spike Lee aurait été montré hors compétition puisque il était président du jury. Et d'ailleurs, à juste titre, les salles de cinéma disent « Non, mais hors compétition, ça nous va. » Mais les films dont on parle beaucoup, qui peuvent être au palmarès, il ne faut pas que le public en soit privé pour leur première sur le grand écran. Et nous défendons très fort cette position.
Merci beaucoup à vous, Thierry Frémaux. Juste un autre rendez-vous. Oui, Arwan a indiqué, ça débute demain. Et c'est des films mis en commun par les grands festivals à voir ou à revoir. Le nouveau numéro de la revue papier de France Culture consacré au cinéma français et à la crise que traverse le 7e art, il est en vente dans tous les kiosques. Enfin, à 20h50 ce soir, vous pourrez retrouver Un homme et une femme de Claude Lelouch à 20h50 dans l'émission Place au cinéma, présentée par Dominique Besnéard. Inoubliable, avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, film et duo auquel le Festival de Cannes rendait hommage l'an passé avec le retour de ces deux acteurs dans Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch, qui avait donc marqué les retrouvailles de ce couple sur le tapis rouge. Merci mille fois à vous, Thierry Frémaux. Plein de belles choses pour la suite. France Culture, il est presque midi et demi.